Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le sens de la fête, un podcast de Christophe Payet pour Nick, la radio.
Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat? Pendant presque 2 ans, en club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région ou dans les campagnes, la bringue a été contrainte, confinée, confisquée. Pourtant, la fête, elle renaît toujours. Elle nous rassemble, elle nous transcende, elle nous transporte. En before, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite, pour finalement le retrouver, ce sens de la fête.
Ma chance, c'est que, avec l'avènement des socialistes en 81, on libéralise les ondes radio, plein de radios libres qui s'ouvrent et qui en même temps organisent des fêtes. Donc je vais commencer à fréquenter quelques lieux de fêtes montés par les radios libres, mais pas que. Il y avait aussi, dans cette année 81, un Africain d'origine sénégalaise, mais à Paris, il avait dans son carnet d'adresse, il trouvait le président de la République, tout le gouvernement, il s'appelait Mamadou Konté, père son âme. Et lui, il avait monté une structure qu'il appelait Africa Fête. Et il organisait des concerts. Il y avait un lieu où il y avait un chapiteau qui pouvait accueillir quelque chose comme 6 000 spectateurs. Et ça s'appelle le chapiteau de Pantin, puisque la porte de Pantin est à 2 pas. Et Mamadou Konté organisait des concerts là. Papa, ça c'était le lieu de la fête.
À 72 ans, il met tout le monde à l'amende sur le dance floor. Il faut dire qu'avant même de savoir marcher, Soro Solo dansait déjà sur le dos de sa mère. Pourtant, sa vie n'a pas toujours été une fête. Né en 1950 à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, Souleymane Koulibaly, de son vrai nom, a connu le joug colonial français, l'indépendance, la guerre, l'exil. Mais la musique, la danse, la curiosité et la joie sont toujours restés un moteur, un art de vivre et d'être au monde. Animateur et producteur radio iconique, d'abord en Côte d'Ivoire, puis sur France Inter, où il anime la cultissime Afrique Enchantée, c'est alors sa voix rocailleuse qui chante, danse et nous donne terriblement envie de bouger. Avec Soro Solo, l'Afrique est une fête à Paris comme à Abidjan. Infatigable, intarissable, indigné et révolté, Soro Solo ne cessera jamais d'écumer les clubs, les festivals et les salles de concert. Il nous compte la fête sacrée, la fête sociale, la musique politique, la bringue rituelle et la teuf comme ciment de la communauté. Soro Solo, bonjour.
Bonjour.
La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand ?
La dernière fois où j'ai fait la fête, c'est samedi dernier. J'ai des amis français qui se sont mariés et ils sont dans le théâtre plutôt, mais ouverts aux musiques de France, mais de l'ailleurs, quoi. Toutes les musiques qui peuvent venir d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique, d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, d'Europe occidentale, ils écoutent tout. Du coup, un mariage comme celui-là, t'as l'agréable surprise d'entendre des musiques diverses et variées. Et il y avait particulièrement, à un moment donné, une chanson, bien sûr, tout le monde danse là, on est content de vivre les mariés, les ci, cela. Et puis, ça m'interpelle. J'ai dit, mais il y avait des claquements de mains et des applaudissements et des voix a cappella, mais mixées avec de l'électro ou du techno. Et j'ai dit, mais ça, ce sont des voix de chez moi, d'Afrique occidentale. Ça me paraît Pearl ou Wolof ou même Bambara. Et donc voilà, il y avait un paquet de musiques comme ça.
Et toi, t'as bien fait la fête?
Ah ben, forcément, ben, je veux dire, tous autant que nous sommes, nous, hommes de radio, je pense qu'on a choisi aussi ce métier parce qu'on aime danser, on aime le mouvement, on aime la diversité, la multiplicité, le métissage, on aime surtout aussi danser. Et moi, particulièrement, je n'ai pas de sport. Il y en a qui sont disciplinés avec leur corps. Ils vont faire du footing, ils vont faire de la bicyclette. Moi, je ne fais rien de tout ça. Le seul moment où je fais du sport, c'est quand je danse. Dans le concert, dans le mariage, dans les fêtes diverses et variées.
Alors, ça veut dire quoi, faire la fête pour toi? Quand est-ce que tu considères que tu fais la fête? C'est quand tu danses, c'est quand tu écoutes de la musique, quand tu retrouves des amis, c'est quoi?
Je crois que c'est l'ensemble de tout ça. Que ce soit moi tout seul, avec mon casque dans ma chambre, à écouter de la musique, j'ai le sentiment dans ma... Psychologiquement, je fais déjà la fête, mais tout seul. Mais... Effectivement, la fête, de mon point de vue, c'est retrouver des copains, écouter les musiques qu'on aime, des musiques sur lesquelles on peut danser, et bien manger, bien boire, c'est la fête. Mais pour moi, la fête, c'est aussi les occasions d'événements sociaux. Cette fête sociale, qui a une fonction sociale, c'est d'abord les premières fêtes dans lesquelles moi j'ai commencé à participer. Gamin, bébé, sur le dos de ma mère, pendant des funérailles, pendant un enterrement, pendant les cultures des champs, j'ai dansé sur son dos. Pour te dire d'où ça vient, j'ai même envie de dire, depuis le sein de ma mère.
Donc ça a toujours été très important dans ta vie?
C'est même pas moi qui décide que ce soit important dans ma vie. C'est une importance qui s'est imposée à moi. Né dans une famille de ruraux, donc de paysans, de cultivateurs, dans le nord de la Côte d'Ivoire, c'était déjà dans mon village, dans le monde rural, que à l'occasion des funérailles, de l'enterrement. D'ailleurs, les Européens, quand ils arrivaient chez nous, on utilisait toujours le mot funérailles pour un enterrement, pour un défunt qui part de l'autre côté du fleuve. Et les Européens, quand ils venaient dans le quartier pour écouter la musique de ces funérailles, ils disaient, oh ouais, vous savez, il y a la fête ce soir au village, là. Et ils appelaient ça tout de suite la fête. Parce qu'effectivement, c'est l'image qu'ils recevaient, le constat qu'ils faisaient. Même s'il y avait des moments, des gens qui pleuraient la douleur du défunt qu'on enterre, mais en même temps, on rigole, on boit, on mange, on danse. Donc, c'était toujours une fête.
Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu en détail? Donc, tu l'as dit, tu as grandi en Côte d'Ivoire dans un milieu plutôt rural. C'était quoi ce milieu? C'était où exactement? Et à quoi elle ressemblait, cette fête?
Je peux vous surprendre en disant rural en même temps urbain. Parce qu'il se trouve que mon père et ma mère sont partis de leur petit village pour aller à l'aventure à la ville. Mais c'était à 20 kilomètres. Mais à l'époque, c'est-à-dire dans les années 30, parcourir 20 km de piste pour aller dans une grande ville, c'était déjà la grande aventure. Et même cette ville naissante, qui était déjà un centre administratif, qui est Korogo, là où je suis né, dans le nord de la Côte d'Ivoire, en région de Savane, avec une administration coloniale, il y avait aussi la ruralité. Les champs de riz étaient entre deux quartiers, les champs de maïs en deux quartiers. Donc c'est à la fois urbain et à la fois déjà rural. Et mon village qui est à 20 km de cette ville où je suis né, j'y allais tous les étés. Et quand je parle de cette fête de la mort pour nous, on a le concept des senoufos, comme beaucoup de peuples africains. Il y a une vie après la vie d'ici. Donc pour nous, c'est un transfert. D'ailleurs, dans certaines régions, on dit qu'il a pris le dernier voyage pour traverser le grand fleuve. On a un rituel qui dure 3 jours et 3 nuits. Le matin, il y a un type de musique sacrée et un type de musique profane qu'on va jouer. Ce sont des codes pour communiquer avec les esprits de l'au-delà, pour annoncer qu'on a un membre de la famille qui est en train de prendre le chemin pour aller vers chez vous, dans l'autre monde. À la mi-journée, comme on est quand même dans des pays très chauds, quand il fait très chaud à partir de midi, 13h, 14h, 15h, il y a une pause. Et à partir de l'après-midi, 16h, il y a un autre cycle de danse rituelle et de danse profane. Et le soir, la température est nettement plus fraîche. Alors là, les cycles se démultiplient. Il y a même des orchestres qui jouent, des orchestres de cordes qui vont jouer toute la nuit jusqu'au lever du jour pour accompagner le défunt. Pendant ces 3 jours, matin, après-midi, le soir, c'est la fête. On danse, on mange, on boit, on rigole, on pleure. Et en même temps, on accomplit des rites pour favoriser le voyage du défunt. Et même quand on porte le corps au cimetière, on lui mettait des victuailles, des réserves pour le voyage. Et on danse mais jusqu'à aplatir la terre qu'on a mise pour couvrir le corps dans le caveau. Et là, c'est vraiment la fête au sens plein du terme. Et ça dure 3 nuits.
Et Est-ce que la fête elle-même est sacrée d'une certaine manière?
À ce moment, cette fête-là, la fête des funérailles, de l'enterrement en pays sur nos fauches, au moins, c'est déjà une fête sacrée. Mais aussi, les fêtes qu'on fait à l'occasion des différentes saisons de l'année. Moi, je viens d'un pays où il y a deux saisons. La saison des pluies, la saison sèche. La saison des pluies, c'est là où on laboure, où on sème. Et dès qu'on commence à sortir de la saison des pluies, la saison sèche s'annonce et c'est la récolte. Il y a déjà, à partir de quelques premières pluies, on fait la fête des labours, de l'ouverture des labours. À ce moment, c'est vraiment des musiques profanes qu'on va jouer, le balafon notamment. Donc c'est un orchestre de balafon. Donc selon chaque groupe de village ou selon chaque quartier, en fonction des territoires cultivés ou cultivables autour du village, on va sur dans cet espace-là et on joue au balafon. Et en même temps, on danse sur cette terre-là comme si on voulait la ramollir avec nos pas de danse. Et ça, c'est une dimension sacrée parce qu'on rend hommage aux esprits pour dire merci pour cette pluie que vous annoncez. Et en même temps, une requête pour demander aux esprits de faire en sorte qu'il y ait le maximum de pluie afin que la terre soit facile à cultiver et qu'on vienne faire des sillons et semer les graines, etc.
Du coup, la fête, c'est effectivement, tu parlais de son caractère social, on est en plein dedans, c'est un marqueur qui va marquer des moments forts de la vie collective, en fait.
Totalement. La fête est vraiment un marqueur de tout, de la vie de chaque individu, de la vie de la collectivité et de la vie des cultes. Parce que les cultes que nous avons aussi, bien sûr, tout se fait en musique. Un autre exemple qui nous tient à cœur quand on est sénophobe comme moi, c'est la fête dans la formation de l'individu, pour aider l'individu à grandir et à vivre en société, il y a ce que nous appelons dans ma langue « por ». C'est ce que les ethno-anthropologues occidentaux ont appelé l'initiation. C'est normalement à partir de l'âge de 7 ans. Il y a un cycle d'initiation à ce moment-là. À 14 ans, 13 ans, 14 ans, il y a un autre cycle. À 18 ans, 20 ans, 21 ans, il y a un autre cycle. À 28 ans, il y a un dernier cycle et on rentre dans la catégorie des sages. Et chacune de ces étapes, c'est ponctué non seulement par l'enseignement qu'on reçoit dans un sanctuaire, c'est dans le bois sacré. C'est un bois qui est à la lisière du village où la génération qui doit être formée va s'enfermer à l'université, j'ai envie de dire, pendant 7 jours et 7 nuits. Et reçoit les différents enseignements de la société, les valeurs fondamentales, le respect, l'intégrité, le partage, la générosité, le civisme, etc., etc. Et quand l'enseignement est conclu, pour venir les présenter à la société, au village, pour dire, voilà, cette génération a été formée et elle est prête à rentrer dans la société, à occuper une place de responsabilité dans le tissu social, dans l'organisation sociale, eh bien, c'est 2 jours de fête et 2 jours de nuit. ils s'habillent leur plus beau vêtement. Et comme c'est des jeunes beaux gosses, ils sont musclés, ils enduisent de corps d'huile de beurre de karité, ils ont les cheveux tressés. Et puis, ils arrivent sur la place, ils dansent, et puis, comme des guerriers pour montrer qu'ils sont forts, la société peut compter sur eux. Donc, tu vois, un troisième exemple, dans la formation de l'individu, la fête est omniprésente.
Qu'est-ce qu'elle apporte, la fête, dans la construction d'un individu?
On est dans quand même des sociétés où on parle beaucoup plus de collectivité et de collectif. Ce qu'on appelle ailleurs le Ubuntu d'Afrique australe. Et cette philosophie veut que je suis parce que tu es, et toi tu es parce que je suis. Donc toi et moi, on ne peut pas parler en moi-je, c'est nous sommes. Et ça, c'est fort dans la culture sénophobe. Comme si, insidieusement, on installe même dans ton vocabulaire et dans ta psychologie, le je, il n'existe quasiment pas. Tu dis nous, tout le temps. Et une des fonctions de la formation de l'individu, on insère ça dans ta psychologie.
Et donc la fête, elle sert à ça, elle sert à faire groupe en fait.
À faire groupe. Devant tout, il y a un danger, on l'affronte en groupe, dans la collectivité. Il y a un avantage, on le partage dans la collectivité.
Et toi, ça a profondément marqué ton rapport à la fête, même encore aujourd'hui, alors que tu vis à Paris depuis des années, des décennies. T'es encore marqué par cette culture-là de la fête?
Je ne réussirai jamais à m'en débarrasser ce sens de la fête à 70 balais. C'est comme quand j'en avais 5 ans dans mon village. Du coup, même quand il y a ce qu'on peut appeler une fête, je recherche plutôt la fonction sociale de cette fête, c'est quoi? Mais ça ne veut pas dire que c'est l'Afrique qui a l'exclusivité de la fonction sociale de la fête. Partout dans le monde, c'était comme ça. Enfin, dans toutes les sociétés. Ce sont nos sociétés artificiellement modernes, là, qui nous donnent. Il faut en faire juste pour le ludique, quoi. Sinon, la fête a toujours une fonction sociale. Les cultures, ça s'est fêté. Les récoltes, ça s'est fêté.
La fête des vendanges,
vous voyez.
Oui, bien sûr.
Et c'est aussi les anniversaires, les mariages. D'ailleurs, je dis, samedi dernier, j'étais à un mariage. C'était un mariage des Français. C'était une super belle fête avec de belles musiques, de belles personnes.
Alors, est-ce que, après, peut-être en grandissant un peu, en devenant adolescent, au-delà de ces fêtes rituelles traditionnelles, tu as découvert d'autres types de fêtes? Est-ce qu'il y avait des booms entre jeunes ados, des premiers clubs dans cette petite ville? Enfin voilà, comment tu es allé vers d'autres types de fêtes à un moment donné?
Ben, au sortir de mon carcan social traditionnel, j'ai vu arriver l'électricité et les orchestres électrifiés. Venant d'une société traditionnelle où les instruments n'étaient pas électrifiés, à la ville, je vais découvrir les guitares électriques. Ah, et là, je découvre les balles du week-end, les samedis, dans la ville de Korogo, au centre culturel de Korogo, où tout le monde se faisait le plus beau possible, les femmes, les hommes, et ça venait danser au son d'une musique importée. Et ces musiques qu'on recevait dans nos pays à travers la radio, eh bien, les orchestres modernes qui ont commencé à se constituer dans une ville comme la mienne, à Korogo, ben, reprenaient ces musiques-là, notamment les musiques afro-cubaines ou les musiques françaises. Des fois, quand j'étonnais des Français, quand je dis « Ah ben moi, oulala, tu sais quoi ? Moi, j'étais trop fan de Sheila. » Comment ça, tu connais Sheila ? Ben, c'est moi en Côte d'Ivoire. Ah bon ? Parce qu'on entendait Sheila. Ben, bien sûr, monsieur, je suis une ancienne colonie française. Donc, en 1964-65, quand Denis Alédé a repris Black is Black, a traduit en français Noir c'est noir. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir au gris de l'ennui et tout est fini. Oh, 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 oh. Après, donc, je découvre cette autre façon de faire la fête, dont la seule fonction sociale, c'était la rencontre des gens de la ville. Et comme la ville, on vient de villages divers et variés, c'est le métissage. Que ce soit des Ivoiriens de Côte d'Ivoire ou des gens, des citoyens venus du Mali, des pays limitrophes, la Côte d'Ivoire, de Guinée, du Sénégal ou du Bénin, du Togo, du Libéria, et qui se retrouvaient dans la ville de Korogo, ben, c'était l'occasion de toute une population hétéroclite de se retrouver pour faire la fête.
C'est marrant parce que ce que tu racontes là, donc à Korogo en Côte d'Ivoire, il y a un photographe malien qui l'a chroniqué un peu au côté Mali à Bamako, c'est Malik Sidibé, toute cette vague, du twist et des yéyés français qui arrivent dans les clubs, donc à Bamako en l'occurrence pour Malik Sidibé puisqu'il est malien, mais en fait il se passait la même chose.
Totalement, et vraiment de tous ces photographes qui ont une reconnaissance internationale aujourd'hui, c'est certainement l'un de ceux qui a eu le nez creux. C'est vraiment Malik Sidibé. Son œuvre photographique est témoin de cette Afrique en pleine mutation. Par contre, il y avait un artiste photographe en Côte d'Ivoire, Auguste Azaglo, de la même génération que Malik Sidibé, mais lui n'a pas consacré autant de photos à faire le reportage des fêtes, de la fête moderne africaine. Il a quelques photos de balles, mais des balles plutôt officielles. D'abord, c'était le 14 juillet, quand on était sous la colonie française. Et à partir de 1960, c'était la fête de l'indépendance, c'était le 7 août. Et donc, voilà, ça c'était, on va dire, la nouvelle forme de fête, mais à l'occidental, avec des orchestres modernes. Et nous, jeunes Ivoiriens, petits Senoufou, en grandissant, on entend parler des clubs qui se font. On a intégré, on a recopié la culture des clubs.
Tu veux dire club au sens de boîte de nuit, de discothèque? Non.
Ça veut dire club au sens d'une association pour s'amuser. Association de jeunes, quand le club est important, ça peut compter jusqu'à 15, 20 membres. Et ils se font des cotisations et à chaque vacances scolaires, le club organise une surboom. Donc, quand on arrive au collège, qui déjà te donne un statut social, ça veut dire que tu es déjà arrivé à un bon niveau d'études scolaires, eh bien, dans chaque quartier, tous les gars, les jeunes du même âge, la même génération, qui sont dans un même collège, eh bien, ils forment le club du quartier. Et par exemple, dans mon quartier d'Air France à Korogo, ben, le club, l'un des clubs qui a été des plus célèbres dans les années 60, ils ont appelé leur club Los Niños.
Los Niños.
En espagnol. Parce qu'ils étaient arrivés en quatrième, ils ont commencé à apprendre une troisième langue. Tout le monde faisait « Oh, qu'est-ce que ça sonne bien !»« Oh, c'est trop bien !» Pour Didier, les enfants.
Et donc toi, t'as fait partie de club ?
Ah, ben oui.
C'était quoi ton club ?
À nous, quand on arrivait au collège, donc les aînés qui ont créé Los Niños, nous on a pris la relève, on est devenus Los Niños, les membres du club Los Niños du quartier Air France de Korogo. Mmh. Ah, il était réputé, hein. Ah ouais, ouais.
C'était les plus belles fêtes.
C'est-à-dire, quelqu'un qui est à l'autre bout du quartier, quand t'es invité à la surboom de Los Niños, c'est que tu comptais dans la ville.
Et on écoutait quoi dans les surbooms de Los Niños ?
Ah ben, c'est toute la musique importée de France, en général. Mais à côté de nous, un des pays qui avait une grosse production de disques, c'est le Ghana, avec une musique authentiquement ghanéenne, le High Life. Quand on a commencé à avoir des orchestres modernes, africains, eh ben, on a commencé à acheter les 45 tours de ces musiques-là. Du Ghana, ou même certaines musiques venues du Nigeria. Et à l'intérieur même de la Côte d'Ivoire, on avait déjà un premier orchestre qui s'appelait Mamadou Doumbia, paix à son âme. Il est décédé, il a été un des premiers grands orchestres à proposer une musique moderne à partir de sa culture malinké. Donc dans nos clubs, dans nos surbooms, c'est un peu ce mélange de la production africaine, de la production nationale, la production des pays voisins et la production surtout française. Quand on a commencé à recevoir les musiques afro des Amériques ou de la Caraïbe, une des musiques qui occupait des grandes places dans les surbooms, c'est la musique afro-cubaine. Parce que nous, on a retrouvé le même tempo, la même rythmique. Ces musiques-là ont été quand même créées sur la base des racines africaines. Donc on s'est reconnu dans ces musiques-là.
Tu peux nous parler justement un peu, nous décrire ce que c'est que les musiques afro-cubaines? Parce qu'en fait, c'est vraiment un circuit de circulation de la musique. Parce qu'effectivement, dans les Caraïbes, il y a cette musique afro-cubaine qui a été créée à partir de rythmes africains par les populations descendantes de l'esclavage.
Totalement, ouais.
Donc qui a emmené des rythmes africains, qui ont créé les musiques afro-cubaines et qui du coup sont retournées en Afrique.
Voilà. C'est pour ça que je te dis, nous on a reconnu un air de famille. Donc ouais, on a accueilli ça. Mais jusque dans les années 80, la quasi-totalité des orchestres modernes du Sénégal ne reproduisait que de l'afro-cuban. Effectivement, cette musique afro-cubaine qui est globalité, c'est divers rythmes et variés. Il y a le pachanga, il y a le son, il y a le montuno. Et puis, ces Caribéens qui se sont retrouvés à New York, ils ont commencé à mélanger un peu beaucoup de toutes ces sensibilités-là. Ils ont créé la salsa, qui veut dire juste la sauce. C'est le mélange de tout ça. Et la salsa est devenue hyper célèbre. Mais c'est arrivé en Afrique, notamment avec quelqu'un comme Johnny Pacheco ou comme Monguito El Unico. Monguito l'unique. Et toutes ces musiques-là revenaient sur nous en Afrique. Mais les Cubains, quand ils arrivaient chez nous, ils étaient... Mais j'ai envie d'employer mon expression favorite. Ils étaient étonnés d'être surpris. De voir à quel point la musique était, on l'avait reçue, on l'avait intégrée, on l'avait digérée, on en faisait maintenant une autre chose, une nouvelle création à nous. Quoi.
Tu vas commencer à travailler à la radio en Côte d'Ivoire. Comment il évolue ton rapport à la fête ? Tu continues à sortir ?
Ça, c'est obligé. Je veux dire, je découvrais tous ces lieux de la fête où les artistes se produisaient, notamment dans une des grosses banlieues d'Abidjan qu'on appelle Abobo. Et le quartier célèbre d'Abidjan, adjacent au port, comme dans toutes les villes du monde, le quartier collé au port est le quartier de la vie. Et à Trècheville, tu avais la canne à sucre. Là, lui, il avait tout le temps des orchestres en live qui jouaient. Tu avais l'Étoile, qui était même un lieu où les premiers mouvements politiques sont partis, ont tenu leur première réunion. C'est, l'Étoile est devenue une sorte de lieu emblématique, symbolique dans Abidjan. Et bien entendu, forcément, tu avais le centre culturel de Trècheville. C'est là où quelqu'un comme Alpha Blondy va faire ses premiers essais de tour de chant avant de devenir la grande star qu'on connaît aujourd'hui. Abidjan était estimé, chaque quartier avait un lieu de diffusion musicale. De sorte que, même dans la politique d'urbanisation de la ville d'Abidjan, les deux grosses sociétés d'État immobilières, ils avaient dans leur cahier de charges, chaque nouveau projet immobilier, il fallait avoir un marché, une école, un centre de santé et un centre culturel, un centre de loisirs. Donc, les lieux de fête étaient intégrés dans les projets d'urbanisation de la capitale économique aujourd'hui. Donc voilà, forcément, j'ai commencé à circuler dans tous ces lieux. Des fois, il y a même des bars qui prennent le nom d'une marque de bière. Parce que en Côte d'Ivoire, il y avait deux grandes industries de fabrication de la bière. Et il y avait donc la brasserie de Côte d'Ivoire. Là, c'est un Bracodi. Et ce gars, il a décidé d'appeler son bar le Bracodi Bar. Dans un quartier populaire. Voilà.
Est-ce que je dois comprendre que ça boit bien dans les fêtes ivoiriennes?
Eh bien, écoutez, si on veut avoir la langue de bois et puis dire « Oh non, on ne doit pas parler d'alcool à l'antenne », oui, on va dire « Non, non, ça boit relativement bien ». Mais moi, je ne tombe pas dans ce genre d'hypocrisie. Ça boit, ça danse, ça fume et ça drague. C'est ça le lieu de la fête. C'est la vie.
Comment est-ce que tu es arrivé à Paris?
Ben, j'ai passé tout bêtement le concours d'entrée à l'Institut National de l'Audiovisuel pour venir apprendre la production de radio. Et j'ai reçu le concours. La Côte d'Ivoire m'a donné une bourse et je suis venu faire ma formation à Paris.
Donc là, c'est en quelle année?
Et moi, je suis arrivé en 81 et je suis reparti fin 83.
Et dans cette période de 2 ans d'études à l'INA, tu fais la fête? À Paris?
Ah ben, Paris, c'est quand même la capitale de la fête, non hein? Ça, c'est obligé. On ne peut pas ne pas faire la fête à Paris. D'abord, quand on est nouveau comme moi, on est d'abord attiré par les lieux emblématiques de la fête de Paris. Sauf que c'était des lieux aussi, pour aller faire la fête là-bas, c'était un peu cher, quoi. Fortement, tu entends parler du Moulin Rouge, les plumes, les paillettes, il y en a sur les Champs-Élysées. C'est pas ceux-là qui ont commencé à m'attirer. C'est d'abord les lieux de concert. Et ma chance, c'est que avec l'avènement des socialistes en 81, on libéralise les ondes radio, plein de radios libres qui s'ouvrent et qui en même temps organisent des fêtes. Donc je vais commencer à fréquenter quelques lieux de fêtes montés par les radios libres, mais pas que. Il y avait aussi, dans cette année 81, un Africain d'origine sénégalaise, mais à Paris, il avait dans son carnet d'adresse, il trouvait le président de la République, tout le gouvernement, il s'appelait Mamadou Konté, père à son âme. Et lui, il avait monté une structure qu'il appelait Africa Fête. Et il organisait des concerts, là où il y a la cité de la musique aujourd'hui. C'était encore en friche. Il y avait un lieu où il y avait un chapiteau qui pouvait accueillir quelque chose comme 6000 spectateurs. Et ça s'appelle le chapiteau de Pantin, puisque la porte de Pantin est à 2 pas. Et Mamadou Konté organisait des concerts là, papa. Ça, c'était le lieu de la fête. Parce que lui, avec tous les groupes, il essayait d'être une sorte de fédérateur des artistes africains, du continent africain dans sa globalité. Et il a commencé donc par le territoire qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire l'Afrique occidentale. Et les plus gros concerts d'Africains que moi j'ai vu à cette époque, c'était au chapiteau de Pantin, organisé par Africa Fête. Comme dans tous les pays du monde, on a l'impression que il y a régulièrement des périodes où il y a des tendances. Et les années 80, je ne sais pas d'où c'est venu, la tendance était très africaine. Donc, toutes les gens, il fallait manger africain, il fallait savoir danser africain, on allait dans les clubs africains, on allait dans les concerts africains. Donc, pour nous, c'était... Mais on n'a même pas besoin d'avoir un discours poétique pour draguer mes filles. T'es black, tu sais bouger le popotin dans un concert, l'affaire est gagnée d'avance.
Donc... Et ouais, le début des années 80, c'est le moment où les musiques africaines commencent à arriver vraiment au grand public à Paris.
Ouais.
Ce qu'on a après appelé assez salement et à tort la world music.
Ouais.
C'est un peu cette période-là en fait.
Ça vient de là. Moi, je pense que, moi, étant plus vieux que toi, je me donne une explication des éléments qui se sont mis en place et qui ont servi de. Qui ont été les catalyseurs pour le développement et la circulation de ces musiques. On est dans les années 80. On constate que dans les médias en général, on commence à retrouver d'anciens 68ards et qui ont voyagé. Puisque mai 68 a provoqué le voyage à travers le monde de toute cette génération de Français, qui en Inde, qui en Afrique, qui au Brésil, qui, etc. Et ces gens ont entendu des musiques dans ces différentes régions du monde où ils sont allés et sont revenus avec ce bagage. On voit une radio naissante qui s'appelle Radio Nova, avec un certain Jean-François Bizot, qui lui avait été au Nigeria, avait déjà parcouru l'Afrique un peu en loin et en large. Donc dans sa programmation, on va retrouver ces musiques africaines. Sur TF1, on va commencer à voir quelques artistes arriver de couleur africaine, et notamment Touré Kounda. Et d'un autre côté, il y a un Africain qui lui-même a monté une structure qui s'appelle Africa Fête, qui va participer à la diffusion de ces musiques-là. Et on commence à voir des clubs comme dans la rue Omer, dans le 10e, un club qui s'appelait à l'époque le Tango, qui était à la fin du 19e siècle, un bal musette. Dans ces années 80-là, va être transformé en bal où on va diffuser de la musique latino et de la musique africaine. Et
le tango qui va devenir ensuite un club gay assez
mythique
de la capitale.
Ouais. Exactement. Et pour moi, c'est la conjugaison de tous ces éléments. C'est 68 ans qui arrivent sur des médias où ils ont des postes de responsabilité et on voit apparaître dans les magazines franco-français même qui était dédié à la musique populaire occidentale, comme on appelle le rock. Je pense notamment à Rock and Folk, ou je pense notamment à Best. Et on commence à voir même dans Libé, Libération, des articles entièrement dédiés à ces musiques africaines. Et tout ça a installé une tendance africaine. Mais comme ils avaient la flemme de créer des cases particulières pour que ce soit vite fait identifiable, ils ont appelé ça world music.
Donc à ce moment-là, les nuits afro à Paris, elles sont bouillonnantes.
Terriblement bouillonnantes. Même quelqu'un comme le styliste Paco Rabanne, qui avait commencé à produire un groupe africain d'origine congolaise, qui s'appelait Mbamina. Je crois que ça veut dire la foudre. Il avait un lieu sur le boulevard de la Villette. Eh bien, régulièrement, il y avait des fêtes africaines dans ce... Oh là là là. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est encore une idée géniale de Jean-François Bizot, créateur de Nova, Radio Nova, et propriétaire de Actuel. Puis plus tard, il va créer Nova Magazine, les Jeudis Noirs du Rex. Waouh, papa. Mais toutes les pointures qui commençaient à avoir de la visibilité ici, les Papa Wemba, les Mori Kanté, les Youssou N'Dour, bref, tous ces grands noms du continent africain sont passés dans ces Jeudis Noirs, qui étaient avec la dimension d'une telle salle. Et puis la multiplicité des lieux de fêtes musicales qui se sont éparpillés, ça a poussé dans Paris, mais comme des champions. Et tout ça a contribué à faire découvrir une expression musicale qui elle-même commence à se métisser énormément avec les autres musiques, notamment celles américaines, celles françaises. Enfin, moi, ça me réjouit de fêter sur ça. Je deviens un gamin heureux.
Oh,
Évidemment, tu le disais, toutes ces les personnes qui vont porter ces soirées, ils viennent de diasporas différentes. Il y a des Sénégalais, il y a des Ivoiriens. Est-ce que tout ça se mélange dans une espèce d'énorme fête afro, ou est-ce que il y a des soirées communautaires? Comment ça se s'articule?
Je pense que avec tout ce magma que je décris vraiment, dont j'ai envie de dire le cœur du tsunami, c'était les années 80. Et il y avait toujours la partie, allez, on est en communauté entre nous. Mais il y avait toujours de grandes rencontres où finalement, comme je disais avec Africa Fête et de Mamadou Konté, là, c'est tous les Africains qui se sentaient interpellés.
Et alors, est-ce que les Blancs viennent dans ces soirées?
Eh ben, comment je te dis que c'était des lieux de drague pour les nous? C'est qu'il y avait des blanches et des blancs aussi. Même des fois, on est un peu surpris à certains concerts. Les trois quarts du temps, les blancs sont majoritaires par rapport aux Africains. Et tu me dis, mais les Africains, ils n'aiment pas aller dans les concerts ou quoi? Non, sauf que la plupart, le gros lot des travailleurs, des migrants africains, tout le monde n'avait pas les avantages de l'étudiant que moi j'étais, avec une bourse qui me permettait de payer des concerts pour aller le voir. Les trois quarts sont quand même veilleurs de nuit, manutentionnaires, salles d'entretien. Quand on a une famille à nourrir au pays et qu'on travaille tous les jours quasiment de 5h du matin où il part de chez lui pour ne pas rentrer avant 22h, les soirs de concert, on ne les voit pas beaucoup. Mais je pense que c'est une réalité à ne pas évacuer de revers de la mer. Donc, résultat, ce n'est que la classe sociale moyenne supérieure des Africains, de la migration, des migrants africains, qui pourraient se permettre d'aller dans les concerts.
Y a même des clubs assez chics dans l'histoire des nuits afro à Paris, je crois.
Ouais, ouais.
Y a eu la Main Bleue à Montreuil, Cœur Samba.
Le Cœur Samba.
Cœur Samba,
ah ouais. Ah ben, le Cœur Samba, tu vois. C'est un Sénégalais qui l'a monté. C'est un des lieux mythiques des nuits chaudes de Paris. Et lui, c'est depuis les années 70, si mes souvenirs sont bons. Déjà en Afrique, on entendait la célébrité du Cœur Samba. Elle était partout parce qu'on voyait des articles là-dessus. Quand tu arrives à Paris, tu vas aller voir le Cœur Samba. Et tu vois, oh, tu arrives. Eh. Parce que c'est le club aussi, il fallait avoir costume cravate. Ah ouais, ouais.
Ah, c'était vraiment chic aussi.
Ah ben oui, comme le club au Palace. Hein. De sorte que même à l'entrée de ces clubs, ces lieux de fête, il y avait un guichet de location de cravates. Oui. Parce que tu arrives, on te donne nos cravates obligatoires. Oh mince, oh, j'ai pas le temps de retourner. Comme ils ne veulent pas te perdre en tant que client, eh ben, tu peux louer une cravate et que tu payes, tu la noues et quand tu repars, tu la redonnes.
Et au Cœur Samba, on entendait quoi comme musique
C'était assez varié justement. Mais beaucoup d'Afro-Cubains et beaucoup de la Caraïbe aussi. Hein. Et puis, bien entendu, nos cousins des Amériques. Qui avait pion sur rue, je pense notamment à James Brown, ou même quelqu'un comme Elvis Presley n'est pas noir. Je pense à Jimmy Cliff, ou à Otis Redding. Cette tendance afro-américaine, ouais. Des chansons à l'eau de rose qui parlaient d'amour, de ci, de ça, mais aussi celles qui étaient revendicatives de quelque chose, non seulement d'une identité, mais aussi de qui commençait à parler de la condition du noir. Quoi. Tu es sûr d'une chose, Say It Loud de James Brown, à n'importe quelle soirée, tu l'entends, tape au moins une fois dans la soirée.
Say it loud.
Bon bah après ces deux années visiblement bien denses et bien chargées à Paris,
ouais.
tu rentres à Abidjan où tu vas travailler pendant de nombreuses années comme producteur et animateur radio sur la radio nationale, tu vas animer des libres antennes, etc. Et tu vas revenir début des années 2000 en France.
Voilà, je reviens début des années 2000, de 84, donc je rentre dans mon pays, après ma formation ici, j'avais une bourse de l'État, donc j'avais un CDI dans mon pays. Et je vais travailler donc à la Radio Nationale jusqu'en 2002. Non, tu vois, ça fait une paire d'années. Hein. 18 années directes. Et la guerre éclate dans mon pays en 2002. Ça devient un peu chaud pour moi. Et je décide de foutre le camp, de dégager le terrain. Et je viens demander l'exil politique en France et en 2003. Et c'est comme ça, je redécouvre de nouveaux lieux, notamment... Ouais.
La fête a dû changer entre 81 et 2003.
Eh ouais, je pense qu'elle a un peu changé. Il y a même une démultiplication des lieux, des festivals. J'ai l'impression que les trois quarts des festivals ont toujours une programmation africaine. Et ça, c'était la grande surprise, tu vois. Et je découvre les Sud à Arles, bing, il y a toujours une dimension africaine. La Fiesta des Sud à Marseille, bing, je vois une dimension africaine. Et je découvre carrément un festival totalement, intégralement, entièrement dédié au continent africain et qui est dans le Lot, dans une ville qui s'appelle Cajar. Et ce festival s'appelle Africajar. Et là, cette édition de 2022, devine qui vient pour la deuxième fois à Africajar, Youssou. Alpha Blondier est passé en musique, Tikendjai est passé en musique, les Kassav ils sont passés en musique, Salif Keita est passé en musique, enfin bref, toutes les pointures passent dans cette ville. Bref, donc je découvre, on va dire, une autre configuration de la fête musicale en France. Non seulement les festivals sont entièrement, quasiment tous nourris aussi de l'expression africaine, et je vais découvrir un autre espace que je ne connaissais pas du temps où moi j'étais en France, c'est les rêves parties.
Les rêves parties?
Ah ben ouais. J'étais dans les rêves parties, moi. Sauf que, forcément, quand tu dis ça aux bien-pensants, oh là là, ce mec-là, il doit être camé à mort, parce que c'est les endroits de drogue, de ci, de ça. Je dis, ouais, un autre. C'est moi hypocrite, parce que moi, j'ai connu des lieux très propres en France. Costume, cravate, brillant, paillettes, etc. Et ça s'est chuté à la cocaïne. Mais ça, par contre, on ne le critiquait pas. Mais moi, je voulais juste découvrir notre expression. Et puis, je constate que dans cette musique techno, ils vont sampler beaucoup de rythmiques africaines. Et quand les jeunes, la moyenne d'âge dedans, c'était quoi, 25 ans. Moi, quand j'ai mis les pieds là-dedans, j'avais 50 ans. J'étais le plus vieux. J'avais deux fois leur âge, l'âge de leur papa. Et les copains qui m'avaient fait découvrir le livre, il y a des gars qui sont leur demandé à mes copains, Jean-David, il fait, dis donc, il tourne à quoi le là? Et Jean-David, il rigole, il dit, mais il n'a rien, non, c'est pas possible, t'as vu comme il a fait. Parce que j'entendais, quand tu prends le temps de tendre l'oreille, tu entends le tempo d'une rythme de chez toi. Ah donc, tu peux mettre ton pas de danse dessus. Ah ben, eux, ça pas, eux, ils écoutent tout en vrac. Il ne faut pas attention, différentes notes, pour écouter le langage de la musique qui leur est proposée. Nous, on vient de culture, on t'a habitué à écouter le langage, ce que ça te raconte.
Comment quand on arrive d'Abidjan à 50 ans, on se retrouve dans une rave party Comment tu t'es retrouvé là-bas?
Mais parce que les 3-4 de mes camarades français, ils savent que je cultive plutôt la curiosité et que je ne veux pas mourir ignorant. C'est même pas pour faire genre. D'abord, les univers qu'on ne connaît pas, c'est souvent qu'on nous les présente avec souvent un discours élogieux. Ouais, c'est là. Le reggae, c'est des fumeurs d'herbe, ils sont camés. La techno, c'est de la cocaïne. Les reportis, ils tournent au crack. Bon, voilà. Si tu veux ne pas boire ces affirmations, parfois gratuites, il faut aller voir par soi-même. C'est tout. Et j'ai appris à découvrir une musique où je retrouve l'ADN de ma musique africaine là-dedans. J'ai dit, ok, mais j'aime la rêve. Les rêves partis. Oh là là, il est perdu pour la cause, celui-là. Voilà. Pour répondre à ta question clairement, comment je me retrouve dans une rêve partie après être arrivé à 50 ans à Abidjan, mais mes amis français, je leur dis, écoutez, moi je vais tout découvrir, je ne vais pas mourir ignorant. Et je ne connais rien en techno, en électro, je ne connais rien. Et le jour où Jean-David a vu qu'il y avait une rêve partie, il m'a dit, yes, solo, banco, on va faire ton baptême. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Et après, j'ai en redemandé.
tout début, tu nous parlais énormément de la fonction sociale de la fête. Cette fonction sociale dans les nuits afro à Paris dans les années 2000, comment elle s'exprime ? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est aussi un catalyseur de la vie collective ?
C'est non seulement ces concerts, ces lieux de musique, de partage, ce sont des lieux de, qu'on appelle de rencontres sociales, de sociabilisation, mais en même temps, c'est aussi des lieux où on se donne des tuyaux pour différents éléments pratiques. Pour prendre par des exemples tout bêtes, tout cons. J'ai un paquet à envoyer au pays, mais il est très lourd, je ne peux pas l'envoyer par la poste, ça va me coûter une fortune. C'est sûr que c'est dans ces lieux-là que je vais trouver quelqu'un qui, lui, connaît un tel qui fait le voyage, qui fait l'aller-retour régulièrement au pays et qui parfois peut prendre un bagage supplémentaire qu'elle n'a pas. Il y a beaucoup de compagnies, enfin en tout cas Air France, il faut avoir deux colis de 25 kilos. Et des fois, pour quelqu'un comme moi, qui allait parfois en Afrique en reportage, j'ai jamais plus d'un colis de 25 kilos. Le gars qui sait que moi je vais régulièrement, il va donner mon contact à ce compatriote pour dire, bah, écoute, ton colis, tu veux l'envoyer à Bamako, ben, il y a celui qui va à telle date à Bamako. Lui, il pourra te prendre un paquet de 15 kilos. Vous voyez, des trucs utiles où tu as de l'espèce qui doit arriver rapidement. Mais moi, dans les années 2000 ici, il y a certaines banques de transfert de monnaie qui te prenaient 10% du montant que tu envoies. Quand tu convertis en africain, là, en une monnaie, en CFA, c'est énorme. Donc bref, le gars, il va envoyer de l'argent rapidement. Il faut que ça arrive absolument parce que parfois, c'est pour payer l'ordonnance d'un parent qui est gravement malade ou pour payer la scolarité d'un neveu alors que l'école doit démarrer dans 3 jours. Et donc, tu cherches quelqu'un qui va t'emporter tout ça. Parce que tout ça aussi, c'est sur la base de la confiance. Je sais que si tu me remets cet argent va arriver à destination. Donc, je prends ces deux exemples-là pour te dire les lieux de la fête, que ce soit une fête avec la musique, dans un mariage, dans un baptême, et dans un dessert, ou dans un club qui est fréquenté par la communauté, tu sais que c'est à cet endroit aussi tu vas collecter des circuits pour répondre à certains besoins imminents.
Je crois qu'on a plus ou moins compris entre les lignes que tu aimais bien danser. Qu'est-ce que ça te fait de danser? Qu'est-ce que ça provoque?
Déjà, ça libère la tête. On a quand même dans une société où on est souvent, le stress de si, de son boulot, des insatisfactions, des projets qui n'aboutissent pas comme on veut, en heure et en temps, comme on souhaite, etc. Et on a la tête qui est envahie, perturbée par des tas d'émotions incroyables. Donc, et moi, danser, ça me vide la tête. Il respire. Quelle que soit ma préoccupation du moment, le lendemain d'une super fête, d'avoir partagé un moment chaleureux avec des amis, ça a une fonction thérapeutique quoi, pour le moral, pour la tête. Et danser, c'est le seul sport que je fais. Quand je danse, vraiment, je vois que ça me déroule les articulations. Et ça me fait travailler les muscles. Du coup, franchement, on n'est pas à la télé. Je crois que je suis pas mécontent de ma corpulence.
Ouais, je pense ça. T'as quel âge? T'as 71 ans?
72.
72
en septembre, je vais avoir 72.
Toujours aussi chaud sur le dance floor.
Voilà. Ah, oh, grave. Ouais. Toujours.
Qu'est-ce qui relie au fond une fête de funérailles dans la campagne ivoirienne et une rave party en banlieue parisienne? Quel est le connecteur commun?
Le connecteur commun, c'est celui qui fait vider la tête. Parce que, tu vois, je t'ai dit, une fête de funérailles, on danse 3 jours et 3 nuits. Quand c'est un seigneur qui décède, la douleur n'est pas la même chose que quand c'est presque un adolescent qui est décédé. Et l'adolescent qui est décédé, c'est dur pour sa mère, pour son père, pour ses frères et sœurs, pour ses cousins, ses oncles, ses tantes. Et c'est ce rituel de danser 3 jours, 3 nuits, mais on te secoue, on te prend les bras. À un moment donné, dans le rituel, des membres de la famille viennent te prendre chaque bras et te secoue, te fait danser. Et tu n'as même plus le temps de réfléchir, de dire oui, je suis triste parce que mon petit est décédé. Et ça, Je pense que sa fonction, non seulement ça t'épuise le corps physiquement, mais à ce moment précis, pendant ces trois nuits, tu n'as pas le temps de dire « Oh mon fils, oh ma fille. » Tu es dans la logique du rituel, qui est comme toutes ces danses et ces musiques qui te font rentrer dans une espèce de transe. Puisque c'est, ça tourne. Jusqu'à 3 heures du matin, au lever du jour, tu tournes. C'est pas de la transe au sens propre du terme, mais tu es dans une espèce de tourbillon où il n'y a pas de place pour autre chose, pour envahir ta tête. Et c'est, pour moi, c'est le principal lien que je trouve entre une musique de funérailles au fin fond de la savane du Nord, la Côte d'Ivoire, et une rêve partie que je vais passer, je vais vivre toute une nuit au milieu des champs où la musique nous fait tourner tous. À un moment donné, on est vraiment, c'est à la limite de la transe. On est dedans. On est dans, et comme c'est répétitif, et tu es là, tu tournes. Et ça prend des heures et des heures. Ça te vide la tête. Et comme tu as tourné, tu as aussi fait travailler tes muscles. Quand tu tombes raide, tu tombes d'un sommeil réparateur. Pareil comme au funérailles, où tu as l'angoisse qui t'oppresse de partout. Et cette maman ou ce papa ou cet oncle qu'on a tourné pendant les trois jours, chaque nuit quand il tombe dans un sommeil profond. Il n'y a pas plus de meilleur réparateur que le sommeil.
Qu'est-ce qui peut tuer la fête ?
Oh, ce qui peut tuer la fête, c'est toutes les espèces de gentrification de nos quartiers, d'une ville comme Paris, qui aiment la vie qu'ils ont appréciée dans un quartier populaire. Et ces petits cons de bobos viennent s'installer là-dedans et après ils râlent et disent « Oh, fais trop de bruit !» Je connais le nombre de lieux, je ne les compte plus, je n'aurai même pas le temps de me rappeler leur nom, qui ont dû fermer. Parce que ben, je sais que tout le monde va me jeter la pierre. On dit, ouais, parce que tu n'habites pas au-dessus d'une boîte. Hein. Mais, sauf que moi, j'ai appris à dormir au milieu du bruit. Il y a pas mal de gens qui savent dormir dans le bruit. Mais on est dans des sociétés où des fois, je vois des gens tressaillir même quand c'est une plume qui est tombée. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont très vite effrayés. Il faut peut-être poser la question à des anthropologues de notre société moderne. Pourquoi les gens ont si facilement peur? Pourquoi les gens n'arrivent pas à dormir facilement? Pourquoi n'importe quel murmure les réveille dans leur sommeil? Je ne sais pas. Donc forcément, et comme c'est la majorité aujourd'hui, si moi je dis ouais, ce sont ceux qui ne veulent pas qu'on fasse du bruit, qui vont tuer la fête, ils vont dire connard, dégage. En plus, je suis immigrant, on dit, il y a quelques politiciens... On dit, ouais, vous entendez ce qu'il dit, ce connard. C'est ça, ces migrants qui apportent la chienlit chez nous, frère. Mais non, mais je reste. Pour moi, s'il y a quelque chose qui va tuer la fête un jour, c'est comment notre société évolue. Et puis, la fête est trop mercantilisée aujourd'hui. Et donc, forcément, ce sont les clés mercantiles de la fête qui vont aussi tuer la fête.
En guise de conclusion, pour résumer, qu'est-ce que c'est pour toi au final que le sens de la fête, c'est-à-dire sa raison d'être profonde ?
La raison d'être de la fête, c'est toute la dimension humaniste qu'il y a dans la fête. Que les humains rencontrent les humains. Parce que pourquoi il est important que les humains rencontrent les humains ? On est quand même dans des sociétés de consommation, d'individualisme. Et moi, je viens d'une culture où on a une métaphore pour inoculer dans ton cerveau l'importance de l'humain, le Ubuntu. Je n'existe que parce que toi, tu existes. Et inversement, tu n'existes que parce que moi, j'existe. Et comment on me résume ça dans la métaphore de mon pays ? Le sage, c'est écoute, mon fils. Quand tu es sorti du sein de ta mère pour venir dans cette vie des hommes, tu étais seul, tu étais nu. Ce sont les humains, des humains qui t'ont accueilli. Le jour où tu vas finir ton voyage sur cette terre des hommes, pour prendre le chemin et pour la traversée du grand fleuve, tu seras également seul et tu seras nu. Et ce sont les humains, les mains des humains, qui vont te reconduire sur le chemin du voyage Donc, ta préoccupation, ça doit être l'individu, l'humain. Si tu es respectueux de l'humain, il sera respectueux de toi. Si tu es intègre, il sera intègre. Si tu es solidaire, il sera solidaire. Et pour moi, quel est le lieu le plus indiqué pour que les humains se rencontrent? C'est le lieu de la fête dans la musique. Voilà.
Le sens de la fête est un podcast de Nick La Radio, écrit et animé par Christophe Paillet. Réalisation, Malo Williams.
Si tu devais choisir qu'une seule track, qu'un seul morceau de musique ultime pour faire la fête, ce serait lequel pour toi?
Ouh, c'est Ibola Leto de Johnny Clegg. Parmi des milliards de morceaux qui me font bondir. Ibola Leto, non seulement ça me fait décoller, mais c'est une musique de combattant qui était une musique composée pour la résistance face à l'apartheid que le monde occidental avait supporté, accompagné, en soutenant ces envahisseurs, ces prédateurs qui sont arrivés dans un pays qui s'appelle l'Afrique du Sud. Ils en ont fait le leur, ils ont banni les natifs de ce pays, de leur terre. Ils ont été expoliés de leur père, de leur terre, de leur richesse minière, etc. Et c'est tout que c'est un blanc, Johnny Clegg, qui a composé cette chanson, qui est une métaphore pour exhorter les combattants de l'apartheid et les combattants de l'ANC, pour dire de toute façon, il a imaginé que c'est un match de football. Et eux, de l'ANC, ils sont une équipe face à l'équipe de l'apartheid. Mais nous les vaincrons, de toute façon, nous les vaincrons. Et c'est cette histoire qui raconte ce combat de match de football, comme si un reporter qui commente un match de football et qui raconte cette chanson. Ibola Leto.
Wesibukeli sonke sakithi Sibuzobani Bengathi ibhola lethu Lapha sihlangana khona bazokhala abantu Sibuzobani Bengathi ibhola lethu Lapha sihlangana khona bazotelingani Sibuzobani Sibuzobani ngathi thathina
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.